Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Pour ce 77e épisode, nous avons parlé de l'évaluation avec mon invité Sylvain Connac. Sylvain est enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry à Montpellier. Il est l'auteur des livres « Apprendre avec les pédagogies coopératives » et « Coopération et évaluation » avec Pierre Ciotta. Donc notre échange a tourné autour de ces trois grandes questions. Comment évaluer en conservant l'estime de soi des enfants ? Comment concevoir l'évaluation comme un outil au service des apprentissages des élèves ? Et comment leur apporter un feedback neutre et immédiat ? Je laisse place à ma conversation avec Sylvain. Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast.
Et bonjour, merci de m'accueillir.
Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de l'évaluation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voudriez bien vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
Je m'appelle Sylvain Connac, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université Paul Valéry à Montpellier. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LIRDEF, où je participe à des recherches autour de référentiels des compétences des enseignants et en particulier la compétence qui concerne la prise en compte de la diversité des élèves. Et donc, dans les recherches auxquelles je participe, je suis des équipes d'enseignants de la maternelle jusqu'au lycée. Et ce sont des équipes qui développent des projets qui tentent justement de résoudre ce problème de la prise en compte de l'hétérogénéité. Et il y en a beaucoup qui ont pris comme option pédagogique d'organiser le travail des élèves de manière coopérative. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de mes publications qui sont centrées sur la coopération.
Oui, et vous êtes l'auteur aussi de deux ouvrages, alors peut-être plus que deux, mais moi j'en ai noté que deux, « Apprendre avec les pédagogies coopératives » et l'autre ouvrage « Coopération et évaluation » avec Pierre Ciotta. C'est bien ça ?
C'est ça.
Alors, donc aujourd'hui, on va parler d'évaluation, même si je pense qu'évaluation et coopération, on peut trouver voilà, des liens, mais on va être centré surtout sur l'évaluation. Donc, la première question que j'aimerais vous poser déjà, c'est est-ce que vous avez gardé des souvenirs, alors je ne sais pas si c'est des bons ou des mauvais, mais est-ce que vous avez gardé des souvenirs de votre enfance par rapport à l'évaluation quand vous étiez à l'école, collège, lycée ?
Non, pas énormément. J'ai traversé le parcours scolaire sans de grandes réussites, sans de grosses difficultés non plus. Pas de souvenirs particuliers, si ce n'est un peu d'ennui. Je me souviens d'un enseignant en CE2 qui avait basé toute sa pédagogie sur des récompenses de petits écureuils qu'on récupérait en achetant la colle d'une marque. Je ne sais même plus si elle existe, cette marque. Donc, en fonction des résultats, on gagnait des écureuils. Et avec ça, on obtenait des maquettes pour construire des châteaux forts. Voilà. Donc, c'est le seul souvenir que j'ai. Sinon, après, comme beaucoup, hein, d'énormes souvenirs de pression liés aux résultats des notes, aux moyennes trimestrielles. Voilà. Rien de bien réjouissant.
Oui, là, vous avez abordé deux points, les récompenses extrinsèques et le stress. Qu'est-ce que vous en pensez des récompenses extrinsèques ?
Alors, ce n'est pas ce que j'en pense. Hein. Il y a eu énormément de travaux autour de ce recours-là. C'est-à-dire, on a des réponses aujourd'hui à la question, faut-il récompenser les élèves pour qu'ils travaillent dans le sens d'apprentissage? Et je pense notamment à partir de la théorie motivationnelle de l'autodétermination de Dessy et Ryan, c'est celle à laquelle vous faites référence, là, avec le triptyque motivation extrinsèque, motivation intrinsèque et amotivation. Il y a des chercheurs nord-américains là, qui ont poursuivi ces recherches en se demandant quel était l'intérêt potentiel éducatif de la motivation extrinsèque. Donc je m'appuie là donc sur les travaux de Chouinard et Archambault. Et leurs travaux sont intéressants hein, parce que ils expliquent que le souci de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire récompenser des élèves ou punir des élèves lorsque ils se trompent ou ils commettent une erreur, c'est intéressant pour certains élèves qui sont en manque de motivation, qui ont perdu de par leur expérience scolaire toute force intérieure à fournir des efforts pour apprendre. C'est-à-dire que en mettant des objectifs à court terme, ça peut redonner confiance à ces élèves-là qui se disent, ben voilà, en fait, au final, je suis arrivé à gagner cette récompense, à réussir ce petit objectif, et c'est bien la marque que je ne suis pas nul partout. Voilà. C'est-à-dire que la motivation, une forme de motivation extrinsèque, est reconnue comme potentiellement intéressante pour redynamiser un certain nombre d'élèves complètement démotivés vers le goût de l'effort d'apprendre. Alors, on pourrait se dire, c'est super, la motivation extrinsèque, et pourquoi ne pas tout baser là-dessus? Alors, il y a des courants pédagogiques hein, qui s'appuient là-dessus, hein, des courants il y a une sorte de revival maintenant, hein, avec le retour du behaviorisme, c'est-à-dire du comportementalisme, où on base tout sur des récompenses à court terme, avec des objectifs réduits et des atteintes d'objectifs. On pourrait se dire pourquoi pas, sauf que la deuxième partie des travaux de Chouinard et Archambault s'est intéressée aux élèves qui n'ont pas besoin d'être récompensés pour fournir un effort. Ce qu'on dit motivés intrinsèquement. C'est-à-dire, apprendre pour eux n'est pas un problème parce qu'ils prennent plaisir à fournir des efforts pour apprendre. Alors, ça existe des élèves comme ça, hein, il y en a même plein. Il y a même des pédagogues comme Célestin Freinet qui expliquent que le caractère vivant des activités scolaires développe des motivations comme ça basées sur la recherche de satisfaction personnelle. Et Chouinard et Archambault ont souligné que lorsque on introduit des formes de motivation extrinsèques vis-à-vis des jeunes qui sont motivés par la recherche de satisfaction personnelle, ça a tendance à transformer leur motivation intrinsèque en motivation extrinsèque. Non. Pour le dire autrement, ce sont des élèves qui, au bout d'un moment, quand on leur propose une activité X ou Y, faire une recherche documentaire ou une résolution de problème ou un exposé, qui en viennent à demander si c'est noté ou ce qui est à gagner. Et ça, c'est voilà, ça, c'est franchement dommage. Parce que oui, la motivation intrinsèque peut être une sorte de marchepied intéressante pour les élèves qui sont perdus, mais au bout d'un moment, cette récompense devient une forme d'addiction. Et on ne travaille plus, on ne fournit des efforts, non pas pour apprendre, mais pour obtenir la récompense ou pour éviter la punition. Donc la conclusion de ce dilemme, là, ça serait que la motivation extrinsèque peut se montrer intéressante avec certains élèves, à condition qu'elle soit temporaire. Qu'elle soit temporaire. Alors, il y a tout un tas de dispositifs pédagogiques où c'est applicable, cette logique. Je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez, le dispositif des îlots bonifiés qui sont développés par une enseignante là, qui s'appelle Marie Rivoire. Alors, on est complètement dans notre sujet, c'est-à-dire que le principe des îlots bonifiés, donc les élèves travaillent par îlot, Ils reçoivent tous des consignes de travail ordinaires, hein. Et ensuite, ils gagnent des points en fonction de la qualité, de la rapidité d'exécution de leur îlot. C'est-à-dire que l'îlot dont les élèves terminent en premier de manière correcte, sans poser de problème de comportement, le travail, obtient 50 points. Le deuxième, 40 points, et puis le dernier, 10 points. Et donc, il y a une forme de compétition, émulation qui peut se créer dans la classe entre les îlots et qui est intéressante justement lorsqu'on se retrouve face à des classes un peu inertielles ou apathiques. Le souci, c'est que voilà, on retrouve Chouinard et Archambault à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est intéressant lorsque des élèves sont perdus et sont complètement dans de l'assistanat. Ça les rebooste. Mais ça crée cette fameuse addiction aux points. Les élèves en viennent au bout d'un moment à dire systématiquement ben, quels sont les points qui sont à gagner. Et puis ils développent cette fausse idée qu'apprendre ne suffirait pas, que le plaisir d'apprendre ne suffirait pas pour fournir des efforts. Et avec une enseignante là une enseignante de lettres de l'Académie d'Aix-Marseille, là, Audrey Chapelain. Vous pourrez trouver son article sur le site de Philippe Mérieux, là, qui a un super texte là-dessus. On a testé le dispositif des îlots bonifiés. Et donc, effectivement, au début, c'est super pour motiver les élèves, en tout cas dans le sens de l'effort dans la tâche scolaire. Et au bout de quelques semaines, lorsque le comportement des élèves correspond à ce qu'on recherchait en tant qu'enseignant en termes d'implication, Audrey leur a dit, bon, mais voilà, c'est super ce que vous faites. Mais ce que vous faites, est-ce que vous le faites pour les points ou est-ce que vous le faites pour apprendre? Et alors les élèves, en théorie, bien sûr, ils avaient bien compris que le principe était d'apprendre. Et donc, elle leur a proposé de continuer à travailler comme ça, mais sans les points. Et voilà, et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que ça donne la possibilité aux élèves de grandir, de développer ce qu'on appelle une forme d'émancipation. C'est-à-dire de se rendre compte que le plus important, ce n'est pas de gagner des points, mais c'est véritablement d'apprendre et de ne pas être parasité par cette motivation intermédiaire que sont les récompenses pour pouvoir fournir un effort. Et si jamais en cours d'année, il se passe des événements qui conduisent à ce que les élèves perdent en motivation, on peut réintroduire pour un court temps le système de points. Mais la précaution, ça serait de ne pas rendre les élèves dépendants de ce système de récompense.
Ouais, j'ai bien compris votre point de vue. Et au début, vous avez parlé aussi de stress très rapidement. Est-ce que le stress qu'un enfant peut ressentir face à une évaluation, enfin, est délétère, j'allais dire. Est-ce que forcément, on peut moins apprendre si on est stressé et pas en sécurité? Est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont été faites?
Oui, alors il y a tout un tas d'études là-dessus qui sont très bien expliquées de mon point de vue par Pascale Toscani, qui est une spécialiste des neurosciences à l'école. Elle a écrit des ouvrages là qui sont très clairs, même à destination des élèves, qui puissent comprendre un peu les principaux leviers de la cognition. Alors elle explique que tout dépend du stress auquel on fait référence, parce qu'il existerait deux stress, deux familles de stress, le stress positif et le stress négatif. Le stress positif, c'est celui qui nous fait considérer des obstacles comme étant des défis intellectuels. Et donc, effectivement, on n'est pas sûr de réussir, on est dans des formes d'incertitude, d'où ce stress, mais on n'attend qu'une chose, c'est de se mettre à l'œuvre pour essayer de montrer ce dont on est capable. Et donc, ce stress positif, il serait intéressant parce que ça serait grâce à ces situations qu'on serait amené à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant, par exemple, pour sortir de la logique unique de faire travailler les élèves à leur rythme. Parce que le problème, alors c'est un peu à la mode ce truc-là, hein, tout le monde veut faire travailler les élèves à leur rythme, même du côté des enseignants ou des collectifs d'enseignants bienveillants. Alors effectivement, c'est un beau projet. Le problème, c'est que si on se contente uniquement de laisser travailler les élèves à leur rythme, ils vont travailler à leur rythme de croisière, c'est-à-dire manipuler des objets qu'ils maîtrisent déjà parfaitement bien, être dans de l'activité pour l'activité, mais pas dans une recherche de dépassement de soi. Et le gros avantage du stress positif, c'est que ça pousse à un dépassement de soi, et c'est ça à apprendre. C'est un peu la théorie, en tout cas l'outil conceptuel là, qui a été apporté par Lev Vygotsky avec la zone de proche développement. C'est-à-dire que il y aurait trois zones un peu théoriques en termes d'activité cognitive. La zone la plus basse, ça serait celle justement où les élèves travaillent à leur rythme et manipulent ce qu'ils savent déjà faire. Donc ils sont actifs, mais ils n'apprennent rien. La troisième zone, c'est ce qui correspondrait à ce qui n'est pas du tout disponible en termes de capacité des élèves. Donc c'est difficile de leur demander d'y entrer parce qu'ils risquent de buter systématiquement et de ne pas y arriver, quels que soient leurs efforts. Et la zone intermédiaire, c'est celle-là, la zone de proche développement. Ce qu'on est capable d'apprendre si on est accompagné par quelqu'un ou par quelque chose. Et le stress positif a cet intérêt-là, c'est-à-dire de pousser à du dépassement, une forme de réalisation de soi, pour créer une émulation avec d'autres ou avec soi, et qui conduit à apprendre. Apprendre, c'est ça. C'est rentrer dans des zones que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, mais qui, avec un effort, deviennent potentiellement notre. Donc ça, c'est le gros avantage du stress positif. Et quand on y arrive, ben, ça active ce fameux circuit de la récompense dont parle Daniel Favre, c'est-à-dire que ça crée ce sentiment de plaisir, de pleine satisfaction d'avoir réussi. D'avoir réussi, d'avoir beaucoup essayé, beaucoup galéré, comme disent les élèves, et puis au bout d'un moment, d'y être arrivé. Donc le stress positif, c'est super, je trouve. Et de mettre un peu de pression sous forme de stress positif aux élèves, ça me semble essentiel. Le problème, c'est quand le stress devient négatif. Et là, c'est pas de l'envie de dépassement, c'est du blocage auquel on doit faire face. On pense qu'on n'est plus capable, qu'on ne va pas y arriver, on a des perceptions de soi qui sont de l'ordre du sentiment d'incompétence, voire même plus de la résignation acquise, c'est-à-dire je suis nul, j'y arriverai jamais, quels que soient les efforts que je fournis. Et au niveau biochimique, le stress négatif est associé à la libération de cortisol, qui a pour conséquence d'empêcher la création de réseaux synaptiques. C'est-à-dire que quand on est dans cette forme de blocage lié au stress de ne pas y arriver, ça devient encore plus difficile d'apprendre. D'où l'importance, quand on est éducateur ou enseignant, de tout faire pour éviter ce stress négatif avec les jeunes. Parce que voilà, avoir une mauvaise image de soi et être convaincu de ne pas y arriver, c'est une raison supplémentaire de ne pas y arriver.
Oui. D'accord. Et comment on pourrait évaluer les enfants, mais en conservant l'estime de soi? Comment concevoir l'évaluation comme un outil au service des apprentissages des élèves?
Alors, un premier détail, c'est de distinguer l'évaluation du jugement. Et le principe de l'évaluation, c'est de ne pas concerner les élèves. On n'évalue pas les élèves. On évalue même pas les apprentissages des élèves. On n'y a pas accès, en fait, aux apprentissages. Il faudrait des outils cognitifs que la technologie ne nous apporte pas aujourd'hui. Et je pense qu'on n'aura jamais. Et ce n'est pas plus mal d'ailleurs. On essaye d'évaluer à partir de performances réalisées d'élèves. C'est-à-dire ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont réalisé sur papier ou autre. Donc ça, le premier élément, c'est de l'expliquer aux élèves. C'est-à-dire que l'évaluation, ça reste un pari. On n'est pas sûr d'être juste, un peu comme un médecin quand il fait un diagnostic. Voilà, il pense que c'est ça, mais sans certitude derrière. C'est pour ça que ça m'amuse un peu les débats autour de l'utilisation de la note. Voilà, 14, 14 et demi, bon, au final, voilà, la docimologie qui est le domaine scientifique qui s'est intéressé justement à l'étude de la notation montre qu'il y a énormément de biais lorsqu'on pose une note et que voilà, il n'y a pas de fiabilité scientifique même dans l'utilisation d'un résultat chiffré et même avec des moyennes ou même avec des pourcentages. Enfin voilà, c'est là il y a une sorte d'hypocrisie énorme sur l'utilisation de la note qui serait rationnelle et objective alors qu'elle n'est absolument pas. Alors, l'essentiel qui viserait à ne pas décourager des élèves par l'utilisation de l'évaluation, c'est de concevoir l'évaluation comme étant des situations pour accompagner les apprentissages. Alors, le problème, c'est que dans l'enseignement, l'évaluation ne sert pas qu'à aider les élèves à apprendre. Elle sert aussi, alors, normalement, c'est pour les élèves les plus âgés, hein. Elle sert aussi de sélection et d'orientation. Et socialement, on a besoin de ça. Imaginez si, alors ça n'existe pas et c'est pas possible, mais imaginez un pays où tous les élèves auraient systématiquement 18 ou 19 sur 20 à toutes leurs évaluations, jusqu'à la fin de leurs études. On serait bien embêté ensuite pour savoir ben, qui va faire quoi en termes d'insertion professionnelle. Donc, il y a besoin effectivement qu'il y ait une forme de sélection pour que toutes les professions puissent être présentes dans l'organisation de la société. La deuxième raison qui fait que des élèves sont soumis à des évaluations et qui ne touchent absolument pas à l'accompagnement des apprentissages, alors ça, c'est un peu nouveau, ça a une vingtaine d'années, ce sont les évaluations qui visent à piloter les systèmes éducatifs. C'est les tests standardisés, les évaluations nationales, qui servent aux sondeurs, par exemple de l'OCDE, avec des enquêtes comme PISA, PIRLS ou TACIT, mais qui servent à avoir des données statistiques sur le fonctionnement des systèmes éducatifs. Et ces données sont reprises par les responsables des systèmes éducatifs, les ministères, pour faire des choix d'orientation. Voilà. Et ça, voilà, il y a des élèves qui participent à ces éléments-là. Le souci, c'est que c'est arrivé en France, hein, plusieurs fois. On utilise ces évaluations qui ont des visées politiques pour faire croire aux élèves que ça va leur donner la possibilité de savoir exactement où ils se trouvent. Et on considère ces évaluations nationales comme, par exemple, des évaluations diagnostiques. Alors, si on a réussi ces évaluations diagnostiques, ben, c'est super, c'est très valorisant. Et puis, qu'on soit élève ou qu'on soit parent, on se dit, ben, tout va bien. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça qui se passe. La plupart du temps, c'est on se sert de ces évaluations. Et même, il y a eu des entretiens qui sont organisés avec les familles pour dire, bon, ben voilà, on a fait passer ces évaluations qui sont scientifiques, qui ont été testées. Et puis, votre enfant, en fait, plutôt que de dire, voilà ce qu'il sait faire, voilà en fait tout ce qu'il ne sait pas faire.
Oui.
Et ça, c'est dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, dès
Mais
la
c'est
grande section maternelle. Ça peut avoir des effets qui sont catastrophiques en termes de sentiment de compétence. Donc voilà, cette deuxième famille de l'évaluation, forme de l'évaluation, elle ne sert pas à accompagner les apprentissages. Alors, l'essentiel dans les recherches en éducation et en sciences de l'éducation en particulier sur la dimension éducative de l'évaluation, pendant longtemps, c'est ce qu'on a appelé l'évaluation formative ou l'évaluation formatrice. Donc, le principe de ces formes-là, c'était de proposer des moments d'évaluation, dans des conditions d'évaluation aux élèves, avec un sujet qui ressemble au sujet de l'évaluation sommative, de manière à ce que les élèves puissent montrer ce qu'ils savent faire en milieu de séquence et qu'on se serve du produit de cette évaluation pour qu'ensuite on utilise les erreurs et qu'ils comprennent où sont les blocages. Voilà. Donc ça, pendant longtemps, c'est des choses qui ont été travaillées, étudiées, préconisées, mises en œuvre dans les classes, et somme toute, le recours aux évaluations formatives, c'est plutôt intéressant. Mais on peut aller plus loin, en fait, pour éviter des formes de découragement des élèves, parce que quand on utilise des évaluations formatives, ça précède toujours des moments d'évaluation sommative. Alors, quand on met en place du formatif, il y a plus d'élèves qui réussissent le sommatif. C'est évident. Donc, c'est super ça. Mais il reste toujours des élèves qui ratent les évaluations sommatives. Et on leur dit quoi à ces jeunes? On leur dit, ben voilà, désolé, c'est terminé. Alors, l'argument qui pousse des enseignants à passer à autre chose, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule séquence dans une année. On ne peut pas travailler qu'un seul objet d'apprentissage, il y en a plein d'autres. Mais ça reste problématique par rapport à tous ceux qui, malgré leurs efforts, ont raté leur évaluation sommative. Et donc, tout leur travail s'achève sur un échec.
Et est-ce que ça serait possible de leur offrir l'opportunité de repasser cette évaluation?
Et voilà, c'est tout l'enjeu est là. C'est ce qu'on appelle les dispositifs qui offrent aux élèves la possibilité de ne pas être condamnés au one shot. C'est-à-dire, voilà, il y a une évaluation, tu la réussis très bien, tu la réussis pas, ben tant pis, parce qu'on passe à autre chose. Et ça correspond à un courant mondial en matière de conception de l'évaluation pour apprendre. Alors, le mot qui est utilisé et qu'on peut difficilement traduire en français, en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé de synonyme parfait, c'est assessment. Les théories de l'assessment. Alors, qu'est-ce que c'est l'assessment? C'est la manière dont l'évaluation est utilisée, non pas dans le monde de l'éducation, mais dans celui de la santé. Alors, les médecins ou les personnels soignants, ils n'évaluent pas leurs patients comme nous, dans l'enseignement, on évalue les élèves. Et heureusement d'ailleurs. Alors, on peut prendre un exemple. On imagine, j'ai très mal à la gorge, donc je patiente un peu, mais au bout d'un moment, ça devient intenable, je vais voir mon médecin. Alors, mon médecin m'ausculte, et puis au bout d'un moment, il fait un diagnostic, il rédige une ordonnance, je vais voir le pharmacien, et puis paf, je prends des médicaments. Bon. C'est une forme d'évaluation. On imagine que 15 jours plus tard, je ne suis pas du tout soigné, ou même une semaine plus tard, je ne suis toujours pas soigné, j'ai toujours un très mal à la gorge. Et donc, je ne tiens plus, je retourne voir mon médecin. Et là, si le médecin fait comme nous, on a l'habitude de faire dans l'enseignement, il me regarde et il me dit, ah ben désolé Sylvain, j'ai déjà évalué.
J'adore cette métaphore parce qu'en plus les métaphores c'est super parlant pour comprendre. Donc voilà, celle-là je l'avais jamais entendue, elle est géniale.
Voilà, et alors bien sûr que les médecins, ils ne font pas comme ça. Hein, ils sont soumis au serment d'Hippocrate. Donc, voilà, ils disent, ben, écoute, j'ai fait le mauvais diagnostic. Ça veut dire que cette piste-là, elle n'est pas bonne. Je vais en investiguer une autre. Et c'est ça, en fait, la théorie de l'assessment. C'est-à-dire que quand les élèves passent une évaluation, qu'ils se soient bien entraînés ou pas bien entraînés, le résultat de l'évaluation, c'est une information. C'est une information pour les enseignants, pour les élèves, aussi accessoirement pour les parents. Hein. Et c'est surtout les enseignants et les élèves qui sont concernés par le résultat de ces évaluations. Et si quand les élèves réussissent, ben c'est super. Quand ils ne réussissent pas, ben ce n'est pas un problème parce qu'on obtient une information. C'est le fameux aphorisme là. Alors on dit toujours, quand on ne sait pas qui l'a dit, que c'est Nelson Mandela. Hein. Mais c'est quand j'essaie, je gagne. Quand j'essaie, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais.
Oui.
Hein, c'est cette idée-là. Et c'est ça en fait qu'on gagnerait à développer de manière massive dans l'enseignement. C'est-à-dire le fait de donner la possibilité aux élèves, alors pas sur tous les objets d'apprentissage, mais sur les objets qui sont centraux. Par exemple, je sais pas, en orthographe, les accords sujet-verbe. En mathématiques, sur la résolution de problèmes, voilà, problèmes opératoires. Voilà, sur des notions qui sont centrales, de dire aux élèves, bon, voilà, il y a un moment d'évaluation, tu as la possibilité de valider tout un tas de trucs pour lesquels tu t'es entraîné. Si c'est validé, tu passes à autre chose. Si ce n'est pas validé, ben c'est intéressant parce que toi et moi, on va obtenir des informations, mais surtout toi, pour reprendre ton entraînement, mais riche de ces informations, en modifiant ta façon de t'entraîner parce que la première fois, ben ça n'a pas payé, change ta façon de travailler. Prends en compte les erreurs qui ont été commises, reprends ton entraînement avec tout le sérieux dont tu es capable, et puis quand tu seras prêt, à ton initiative, tu repasseras. Alors, ce n'est pas la même évaluation, c'est une évaluation similaire, avec le même niveau d'exigence. Ce n'est pas plus compliqué, surtout, ce n'est pas plus simple, mais ce n'est pas exactement le même énoncé. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, alors on peut représenter ça soit avec sous forme d'une boucle, c'est ce qu'on appelle la boucle évaluative. C'est-à-dire, tant que des élèves n'ont pas réussi, leur donner la possibilité, en les encourageant, de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et lorsque la validation est effective, elle a exactement le même statut que si elle était intervenue du premier coup.
Et en procédant comme ça, je trouve qu'on modifie vraiment la vision de l'erreur. Parce que pour les enfants, faire une erreur, c'est embêtant. C'est voilà, ils vont vite se dire je suis nul. Alors que là, ils prennent conscience avec cette deuxième chance, troisième chance, que l'erreur, c'est une opportunité d'apprentissage et que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
Oui, c'est mon collègue Daniel Favre là, qui utilise cette phrase-là. Il dit, Le projet en matière d'enseignement, ça serait de décontaminer l'erreur de la faute. Décontaminer l'erreur de la faute. Ça sous-entend d'enlever la dimension moralisante de la faute. C'est pas bien de se tromper. On a mal agi dans le fait de se tromper. Voilà. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Parce que voilà, tout le monde parle de faute d'orthographe. Et une faute d'orthographe, quand on va à l'origine du mot, ça sous-tendrait que si l'élève s'est trompé, c'est soit parce qu'il a fait exprès pour nous provoquer, soit parce que le malin est en lui, et c'est pas lui qui s'exprime, c'est le diable qui lui a fait commettre sa faute. Et donc, pour faire sortir le diable en lui, il faut qu'il soit puni, qu'il y ait une souffrance derrière, de manière à ce qu'il puisse écrire correctement le résultat de sa dictée. Enfin, c'est hallucinant comme théorie. Mais on est encore dans cet héritage un peu judéo-chrétien, que se tromper, c'est mal. Et tous, hein, on n'est pas. Voilà, l'évolution de nos sociétés, de nos façons de concevoir la difficulté, participe à cette image-là. On a beau dire c'est bien de se tromper pour apprendre, c'est pas vécu de manière aussi positive comme ça dans les espaces scolaires. Et notamment en créant un flou entre deux moments qui sont radicalement différents en termes de posture de l'erreur, justement, c'est les moments d'entraînement. Quand on s'entraîne, ben, l'erreur est la bienvenue, parce qu'en se trompant, ben, on apprend. Et les moments d'évaluation, où là, le principe est justement de tout faire pour ne pas se tromper, en montrant tout ce qu'on sait faire de sûr et de solide. Et quand on n'est pas clair avec les élèves et qu'on crée une forme de flou, avec un sentiment d'évaluation permanente pour les élèves, ben, ça veut dire que on risque de créer ces malentendus où les élèves ne savent pas vraiment s'ils peuvent se tromper ou pas.
Et on sait en plus maintenant, grâce aux neurosciences, que se tester pour apprendre, c'est super efficace. Et donc, ça serait intéressant qu'il n'y ait pas de stress face aux évaluations et que les enfants, les ados, voient ça comme une opportunité en fait. C'est pas la note qui arrive au bout qui compte, c'est que c'est une nouvelle opportunité pour m'entraîner et progresser.
Oui, alors après, ça rejoint ce qu'on disait sur le stress positif. Que des jeunes soient stressés avant de passer une évaluation, moi je trouve ça super. Parce que c'est le moment justement où ils vont pouvoir transformer, je prends la métaphore du rugby, où ils vont pouvoir transformer tous leurs entraînements. Et qu'ils soient avides d'y être pour montrer tout ce qu'ils sont capables de réussir, avec ce sentiment-là, les dernières minutes, qu'on a tout oublié, voilà, qu'on ne sait plus rien faire. Ben, ça, c'est super, ça. Le souci, c'est quand voilà, on conduit les élèves à l'évaluation comme le condamné à l'échafaud, et où ils ont la certitude que le résultat, ils le connaissent déjà, c'est-à-dire qu'ils vont échouer. Et là, c'est ça qui crée du stress négatif. D'où l'importance de bien distinguer les moments d'évaluation, d'anticiper ça avec les élèves. Des moments d'entraînement où là, voilà, on met tout en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'élèves qui réussissent un maximum de choses. C'est André Antibi là, qui a beaucoup travaillé ça depuis plusieurs années, hein, avec son projet de lutter contre ce qu'il appelait la constante macabre. Parce que vous avez entendu parler de ça, là, c'est la constante macabre, c'est un phénomène qui a été étudié par les docimologues et qui explique que quelle que soit la classe dans laquelle on se trouve, pour être considéré comme un bon enseignant, il y a besoin qu'il y ait un tiers d'élèves qui réussissent, un tiers d'élèves moyens, un tiers d'élèves qui échouent. Qu'on soit dans une classe avec beaucoup de difficultés ou dans une classe extraordinaire, on retrouve ces trois tiers-là de la courbe de Gauss. Et donc, pour lutter contre ce phénomène qui est très décourageant pour au moins un tiers des élèves, André Antibi a beaucoup travaillé sur la notion de contrat de confiance. Alors, ça n'a rien à voir avec une marque d'électroménager, hein. Mais cette idée, c'était de dire, de chasser tous les implicites et toutes les peurs liées aux surprises pendant l'évaluation. Et de dire aux élèves dès le début, On va s'entraîner au maximum pour que vous réussissiez une épreuve d'évaluation qui va mobiliser vos apprentissages sur tel domaine et de telle manière, sans donner le sujet aux élèves, bien sûr, hein. Et donc, quand on est aussi clair que ça et qu'on crée ce fameux contrat de confiance dont parle André Antibi, effectivement, qu'on a plus de chances de voir se développer chez les élèves du stress positif que de la peur d'échouer.
Oui. Et Stanislas Dehaene parle de retour sur erreur immédiat et neutre. Donc le fait de se tester et d'avoir un retour juste dans la foulée. Et donc neutre, j'ai interprété ça comme sans note, sans jugement, et immédiat. Et c'est sur le immédiat que j'aimerais échanger avec vous. Parce que dans les écoles primaires, la plupart du temps, on donne une évaluation aux enfants et on la récupère et on leur redonne corrigée plusieurs jours plus tard, le lendemain, deux,
Oui.
trois jours plus tard. Et là, donc, le immédiat, on n'y est pas du tout dans le retour sur erreur immédiat. Comment on pourrait améliorer ça pour les auditeurs qui nous écoutent, qui auraient envie d'améliorer la façon dont ils évaluent leurs élèves? Quelle solution toute simple pour serait comment on pourrait faire pour éviter ça?
Alors, ce qui est évoqué là par Stanislas Dehaene, là, c'est la notion de rétroaction. Alors, on n'a pas l'habitude de l'entendre en français, on entend surtout le terme anglais avec la notion de feedback. C'est la
Oui.
même chose. Alors, en France, elle a surtout été développée par un spécialiste de l'évaluation qui est Charles Hadji, hein, qui a, depuis des dizaines d'années, moi, j'ai lu des écrits de la part de Charles Hadji sur la notion de rétroaction. Et ce n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Alors, la rétroaction, c'est la dimension éducative de l'évaluation. C'est le fait que l'évaluation a ceci d'intéressant, qu'elle donne la possibilité aux élèves d'obtenir un retour sur leur activité par rapport à la norme qui est attendue. Et donc, on a besoin de ce retour. On est toujours, en fait, dans ces logiques de rétroaction. Lorsqu'on discute avec quelqu'un, on recherche des micro-informations dans ce qui se passe dans son visage pour voir un petit peu comment lui reçoit l'information qu'on est en train de lui communiquer. Voilà. Donc, la rétroaction dans l'enseignement, elle a cette fonction-là, c'est-à-dire de donner la possibilité aux élèves d'avoir un retour sur leur activité et dans le sens de ben, c'est super, donc ce que tu fais, ben, continue à aller dans ce sens-là parce que ça correspond justement à ce qui est attendu. Quitte à ce que ce soit même validé, hein, qu'il y ait des formes de certification à travers ça. Mais la rétroaction est surtout intéressante par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure autour de l'erreur. C'est-à-dire que ben là, ce n'est pas bon. Et le fait de s'entendre dire que ce n'est pas bon, c'est accompagné par des informations qui permettent de comprendre la logique interne de l'erreur qu'on a commise. Et là, c'est pas la meilleure façon de concevoir la rétroaction. S'entendre dire que ce qu'on a fait, c'est correct, c'est aussi puissant que s'entendre dire que ce qu'on a fait, c'est pas encore bon en termes de poursuite. Alors, comment favoriser la rétroaction? La principale donnée, c'est qu'effectivement, on a tout intérêt de proposer la rétroaction lorsque les élèves sont toujours dans l'activité intellectuelle qui les a conduits à réaliser cette production et pas une autre. C'est pour ça que Stanislas Dehaene parle de dimension immédiate.
Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, une fois que les enfants ont fini leur évaluation, on les ramasse ou on leur demande de poser le stylo, mais on affiche la correction et on discute de la correction ensemble? Est-ce que
Oui,
ça...
par exemple. Alors c'est pas le meilleur des dispositifs parce que ça a une dimension collective. Et puis tous les élèves ne vont pas forcément parvenir à profiter de ce moment-là commun pour obtenir une information qui les intéresse individuellement.
D'accord.
Mais c'est cette logique-là. Alors, dans le patrimoine des dispositifs pédagogiques, il y a plusieurs, en fait, il y a trois modalités qui permettent de travailler cette rétroaction immédiate, quasi immédiate. Et d'éviter de dire aux élèves, bah, attendez que je corrige, et même quand on est très rapide et qu'on leur rend le lendemain, effectivement, pas pour tous, mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard parce qu'ils sont passés à autre chose. Le premier dispositif, alors, il y a déjà un dispositif à éviter, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. qui, de mon point de vue, est un non-sens, parce que l'auto-évaluation consisterait à dire aux élèves, évalue toi-même ton travail. Et si on prend une métaphore, c'est comme si on se retrouvait dans un désert, parachuté, et puis qu'on nous dise, ben vas-y, sors du désert, débrouille-toi tout seul. C'est une forme d'abandon des élèves, hein, l'auto-évaluation. La rétroaction, ce n'est pas du tout de l'auto-évaluation, hein. La rétroaction, c'est justement l'environnement dans lequel on se trouve qui renvoie une information sur le degré de correction et de convenance de son travail par rapport à ce qui est attendu relatif au savoir scolaire. Donc, l'auto-évaluation, pour moi, ça n'a absolument pas sa place avec des élèves. Ça peut avoir de l'intérêt dans des logiques de développement professionnel, où là, il n'y a pas forcément de réponse attendue et où le positionnement d'un professionnel par rapport à son activité professionnelle peut se faire de manière auto-évaluative. Pour des élèves, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Alors, les alternatives, la première, c'est ce qu'on appelle l'autocorrection.
Alors, qu'est-ce que vous appelez auto-évaluation? Alors, pour être sûr de comprendre.
L'auto-évaluation, c'est le fait de demander aux élèves de s'évaluer par eux-mêmes.
Sans rien, sans support, qu'est-ce que tu penses
Alors,
de ton évaluation?
il peut y avoir des supports, mais sauf que l'environnement n'apporte rien en termes de retour sur
D'accord.
l'activité de l'élève.
D'accord. Il s'auto, il
Et
s'auto-évalue. Je pense que j'ai
ben
bien
oui,
réussi, je pense que j'ai juste, je pense que j'ai
c'est
faux.
ça. Et
D'accord.
ça, c'est légitimement très anxiogène.
Oui.
Parce que même quand on pense qu'on a réussi, quand on est dans de l'auto-évaluation, on a besoin d'une information de l'extérieur qui atteste qu'on a réussi. Ou quand on s'est trompé, quand on pense qu'on s'est trompé. Mais voilà, quelles sont les informations que l'on obtient pour comprendre la nature de ces erreurs? Avec l'auto-évaluation, aucune.
D'accord. Donc auto.
Alors que dans l'autocorrection, non, c'est pas du tout la même chose, l'autocorrection. Il y a une dimension d'autonomie parce que c'est les élèves qui font tout le travail, mais sauf qu'une autocorrection consiste à comparer sa production avec la réponse attendue, ou les formes de réponse attendues. Et là, c'est plus une auto-évaluation, c'est une comparaison. C'est-à-dire on compare ce qu'on a fait avec un exemple ou la réponse experte présentée. Et ça va permettre ce travail de rétroaction. Parce que de la comparaison, en fait, on en vient à pouvoir mettre en perspective son propre travail. Et à se dire, ah oui, mince, je ne l'ai pas pensé comme ça, effectivement, je vois mieux. Ou au contraire, ah ben, je pense que c'est bon, quoi, j'ai exactement fait la même chose ou quasiment la même chose. Et quand des élèves, quand ils font ce travail de comparaison, il y en a certains qui ne comprennent pas, malgré la réponse, pourquoi ils se sont trompés. Ils peuvent déclencher d'autres formes de support, par exemple aller voir un adulte en disant mais je ne comprends pas la réponse, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je travaille avec une doctorante là, qui s'appelle Manon Arendt et qui s'intéresse à l'importance de la triche des élèves dans l'apprentissage. Alors souvent la triche, voilà, c'est mal, quoi. Se tricher, c'est pas bien, c'est un mal profond, quoi. Et en fait, le fait de regarder la réponse pour comprendre sa production, alors des fois, c'est effectivement de la fraude. La triche à l'examen, c'est de la fraude. Là, il n'y a rien qui le légitime. Mais ça peut être une stratégie d'entraînement aussi puissante que la recherche individuelle. Et le fait d'aller directement voir la réponse quand on est face à un exercice, peut-être que ça donne la possibilité aux élèves de contourner cette phase qui est très difficile, qui est celle de l'incertitude. Et il y en a certains que ça rassure que d'obtenir très rapidement l'information et de se dire, ah ben tiens, ça y est, ça, je vois la réponse à ce problème. Ça fait penser aux théories de l'apprentissage de l'abstraction de Britt Marie Barth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ses travaux. C'est une collègue chercheure de l'Université de Genève. Et qui donne des repères théoriques extrêmement puissants permettre de comprendre comment des enfants comprennent quelque chose qui est abstrait. Et donc, sa théorie, elle est plus complexe dans la modalité d'enseignement, mais sa théorie explique que quelque chose qui est abstrait, on le comprend avec des exemples oui et des exemples non. Mais c'est l'environnement qui segmente les exemples. Et quand on nous présente un exemple oui, ça veut dire que celui-là, ben tout est bon pour le concept abstrait que j'essaye de m'approprier. Puis après, j'ai un deuxième exemple, oui, puis un troisième, mais ils sont de nature différente. Donc, je commence à discriminer des invariants et des critères communs. Puis au bout d'un moment, on me présente un exemple non. celui-là, il n'est pas bon. Et on me dit, mais à ton avis, pourquoi celui-là, il n'est pas bon au regard des premiers qui étaient oui? Et c'est ça, en fait, l'avantage de l'autocorrection, c'est que quand on va directement chercher la réponse, ça peut avoir cette fonction d'exemple oui. Donc, une première manière de favoriser la rétroaction immédiate, c'est l'autocorrection. La deuxième manière, c'est la coévaluation. C'est-à-dire, alors c'est là, c'est surtout, ça c'est surtout puissant dans les classes où il y a de la coopération. Les élèves ont terminé leur travail et plutôt que d'aller voir la correction ou d'attendre le retour de l'enseignant, ils demandent l'avis d'un élève qui a déjà réussi ce travail. Voilà. Et donc c'est intéressant pour celui qui reçoit l'information parce que il y a plus d'humanité dans de la coévaluation que dans de l'autocorrection qui reste sur des papiers ou du texte. Et c'est intéressant pour celui qui fait un retour sur le travail de son copain parce que c'est extrêmement valorisant. Voilà.
Et il me semble qu'un enfant, par exemple, qui n'a pas compris une notion, aura plus de facilité à la comprendre avec un autre enfant qui est juste... juste au-dessus de lui, qu'avec un adulte qui est des fois, enfin, un adulte pour qui c'est acquis depuis des années.
Alors, ouais, c'est des choses qu'on entend souvent, mais. Quelqu'un comme Alain Baudry ou Alain Marchive, ils ont étudié ça pendant très longtemps dans leur carrière de chercheur, et au final, non.
Ah bon.
Les enfants n'expliquent pas mieux que des enseignants, que des adultes qui maîtrisent beaucoup mieux, avec beaucoup plus de recul, qui plus est avec de l'expérience d'enseignement et savoir scolaire. Ce que, en revanche, des enfants font mieux que des enseignants, c'est que dans une classe, il n'y a pas qu'un seul élève. Il n'y a pas qu'un seul copain.
Oui.
Donc, il y a une forme de démultiplication des sources d'information qui est bien effectivement plus riche chez des enfants que chez une seule personne adulte et enseignante. Donc, c'est pour ça qu'on a cette impression que des enfants peuvent mieux expliquer que des adultes, mais ce n'est pas ça. C'est que quand un enfant demande à un copain et puis que le copain n'explique pas de manière suffisamment compréhensible, il va avoir un autre qui peut-être lui, parce qu'il est différent, va trouver la bonne clé pour bien faire comprendre. Et c'est ça
Oui.
qui donne cette impression. Mais
D'accord.
non, mais nous, en tant qu'adultes, heureusement d'ailleurs, sinon on perdrait notre métier, heureusement qu'on maîtrise mieux les savoirs et qu'on a plus d'empan, un peu de maîtrise de ces savoirs pour pouvoir les expliquer aux enfants.
Oui, je comprends. C'est pas qu'on explique mieux, mais c'est que les enfants sont plus nombreux, donc il y aura plus d'explications. Ils peuvent avoir plus de...
Potentiellement, voilà.
Voilà.
Jusqu'à ce qu'il y ait un enfant qui comprenne.
Ouais.
Moi, je sais, quand je fais des entretiens de recherche avec des élèves, qui demandent de l'aide à des copains. Et une des questions rituelles que je leur pose, c'est pourquoi tu n'as pas demandé à la maîtresse, au maître ou au prof? Alors, il y a deux types d'explications. La première, c'est des élèves qui disent ben, je n'ai pas envie de m'entendre dire, tu n'avais qu'à écouter. Et, mais les enseignants, ils ont raison de dire ça aux élèves, parce que sinon les élèves, ils n'auraient pas besoin d'écouter les consignes, parce que de toute manière, il suffit d'aller voir l'enseignant qui le répète 500 000 fois. Voilà. Donc c'est bien quand il y a des enseignants qui disent aux élèves, attention, je donne la consigne, mais je l'explique une fois. Alors, je réponds aux questions immédiatement, mais quand c'est terminé, je ne la réexplique pas. Vous vous débrouillez avec les copains et les copines. Donc il y a des élèves qui disent ça. Je ne vais pas voir le maître parce que le maître m'a dit qu'il ne réexpliquait pas. Très bien. Et la deuxième explication, c'est des élèves qui disent, je ne vais pas aller voir l'enseignant parce qu'il me réexplique toujours de la même manière. Alors, c'est d'une manière experte, effectivement, mais c'est vrai que là, ce que je suis en train d'expliquer, je l'explique selon ma logique, mais qui n'est pas la vôtre. Et si notre collègue chercheur vous expliquait les mêmes théories que celles que je vous présente à sa manière, ben, certainement que vous les comprendriez mieux si il y a des zones d'ombre dans mes explications. Donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est le fait que les copains sont en termes d'individus, plus nombreux que la seule personne qui est l'enseignant.
D'accord.
Et voilà, et puis la troisième possibilité qui permet de faire de la rétroaction immédiate, c'est l'enseignant, avec un dispositif là, qui a une vingtaine d'années, là, qui est étudié depuis une vingtaine d'années à l'initiative d'enseignants, et qui est beaucoup exploré en ce moment par une collègue suisse là, qui s'appelle Alexia Forger, qu'elle appelle la table d'appui. Et le principe de la table d'appui, c'est des choses que moi j'ai pu observer dans des ambiances montessoriennes. L'enseignant ne circule rarement parmi les tapis des élèves. Il est assis à un endroit Et là, il y a plein de possibilités qui s'offrent à lui ou à elle. Et c'est un peu la fonction de la table d'appui. C'est-à-dire, quand les élèves sont au boulot, l'enseignant, il a à disposition plusieurs activités. Observer les élèves au travail. Alors, si j'ai bien compris ce qu'expliquait Maria Montessori sur la pédagogie qu'elle a développée, c'est qu'elle a pensé du matériel pour mettre les élèves en activité afin de mieux les observer de manière à ce qu'elle puisse adapter sa pédagogie au profil et à la réalité de chaque élève. Donc, observer les élèves au travail, c'est extrêmement intéressant. La deuxième, c'est de pouvoir faire de la correction immédiate. Par exemple, quand on est enseignant, de mettre sur sa table d'appui deux bannettes. La première, les élèves déposent leur travail qui est terminé. Et la deuxième, c'est l'enseignant, quand il a mis sa correction, il la met dans la deuxième bannette. Et il y a un élève dont le métier est de redistribuer ce courrier aux élèves de la classe. Et donc, ça permet de réduire de manière considérable le temps entre la réalisation de l'évaluation et le retour sur l'évaluation. Après, dans la table d'appui, la troisième possibilité, c'est quand on corrige un travail ou quand on observe un comportement, de dire à l'élève, viens me voir, j'aimerais bien discuter avec toi de quelque chose. Donc, de faire des micro-entretiens avec les élèves. Et la quatrième, c'est à partir, puisqu'on parle de l'évaluation, mais à partir de résultats d'évaluation, de constituer autour de soi un petit groupe de besoins ponctuels et rapides. Voilà. Et ça, c'est. Voilà, là, on a trois, entre l'autocorrection, la coévaluation et puis la table d'appui, on a trois dispositifs qui permettent effectivement d'attribuer toutes ces lettres de noblesse à la rétroaction.
D'accord. Et bah écoutez, merci beaucoup pour tous les outils que vous nous avez apportés aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on va terminer avec une citation. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'oublie parfois. Est-ce qu'il y a une citation que vous connaissez par cœur et que vous aimeriez partager sur notre sujet?
Moi, je travaille beaucoup sur la coopération et c'est vrai que souvent sur la coopération, on a cette citation-là qui est seul on va vite, ensemble on va loin. Mais en pédagogie, on s'est aperçu qu'elle était complètement fausse, cette citation. Donc, je vous donne une non-citation. Ensemble, on va pas forcément loin. Quand on est avec des personnes avec qui c'est difficile, en fait, on n'avance pas du tout. Et seul, on va pas toujours vite, surtout quand on rencontre des difficultés. Donc, s'il y avait un adage à retenir des pratiques de coopérative, des pratiques de coopération et des pratiques d'évaluation, ça serait coopérer pour mieux apprendre tout seul. Et donc, on pourrait traduire ça avec l'évaluation, c'est participer à des évaluations pour mieux apprendre seul.
Donc vraiment l'évaluation comme un outil au service des apprentissages des élèves et pas comme juste un moyen de transmettre de l'information aux parents ou à l'administration. D'accord. Et est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez conseiller aux auditeurs?
Il y a une recherche là qu'on a terminée avec mon collègue Pierre Ciotal, hein, où on a travaillé pendant 4 ans avec un collectif de professeurs des écoles dans la région de Toulouse sur justement l'observation, l'étude d'organisation de classe basée sur l'évaluation éducative, avec le principe de la boucle évaluative. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Coopération et évaluation. Et le plus intéressant de mon point de vue dans cet ouvrage, c'est le fait que parmi les 33 enseignants là, qui ont ouvert leur salle de classe et qui ont changé leur façon d'évaluer le travail des élèves, on en a retenu 17 dont les fonctionnements sont présentés dans cet ouvrage, de la maternelle jusqu'au CME2. Donc c'est pour les professeurs des écoles.
D'accord. Et on va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule.
Oui, bon, j'en ai fait assez hein, pendant cette intervention, hein, donc je ne vais pas en rajouter pour ne pas avoir des demi supplémentaires. Hein. Non, le coup de cœur, ça serait par rapport à la tribune que vous nous donnez la possibilité d'avoir. Hein, et c'est voilà, on touche des domaines qui sont pas évidents parce que c'est un peu contre-culture et contre-tradition. On n'a pas l'habitude de concevoir les moments d'évaluation comme pouvant être très intéressants pour accompagner les apprentissages des élèves. Et ça demande voilà, des espaces d'échange, d'explications longues, qui ne soient pas solvable en 30 secondes, où on peut expliquer quels sont les appuis théoriques et comment concrètement ça peut se développer, pour espérer que dans quelques années, quelques dizaines d'années, la masse critique des enseignants soit dans ces logiques-là de conception de l'évaluation.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain.
Merci beaucoup à vous, Céline.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!